Chaque mois, Conversation vous propose de découvrir le parcours de celles et ceux qui sont à la tête d'entreprise. D'où viennent ces femmes et ces hommes? Quels ont été les déclencheurs et événements de l'envie d'entreprendre? Quel regard portent-ils sur leur rôle de chef d'entreprise? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce podcast. Nous sommes Jean Gabor et Guillaume Rivalan, et vous écoutez Conversation, le podcast de la voix des dirigeants.
Pour ce nouvel épisode, notre invitée est avocate associée. Jeune chef d'entreprise, le cabinet qu'elle dirige a été distingué lauréat dans la catégorie de la firme entrepreneuriale de moins de 5 ans lors du dernier sommet du droit. Passée par un grand cabinet français de droit social, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en créant Littler France avec 12 autres associés il y a désormais 2 ans, avec pour objectif d'accompagner les dirigeants dans les transitions sociales de leurs organisations. Conversation reçoit aujourd'hui Maître Coralie Jamois, avocate associée chez Littler France. Bonjour Coralie Jamois, merci d'avoir accepté notre invitation.
Conversation, le podcast de la voix des dirigeants.
Bonjour Guillaume, bonjour Jean. Merci beaucoup de me recevoir.
Maître, bonjour. Avant d'entreprendre, vous avez évolué près de 10 ans dans un grand cabinet d'avocats français. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de passer le pas de l'entrepreneuriat et de cofonder Littler France?
Effectivement, avant l'aventure Littler France, j'ai exercé en tant qu'avocate collaboratrice, puis associée au sein d'un autre cabinet, tout comme mes 12 autres associés actuels. Et puis, à un moment donné, on a eu cette envie, ce besoin de créer un cercle de prise de décision plus restreint. Le réseau Littler, pour nous, a été un pilier exceptionnel, puisqu'il nous a permis de nous lancer dans ce nouveau challenge en bénéficiant d'une marque connue et reconnue à l'international. On parle d'un réseau de 1800 avocats, 110 bureaux dans 30 pays, tous spécialisés en droit social.
Vous avez créé Littler France avec 12 autres associés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de chacun dans le fonctionnement de votre entreprise en France?
Aujourd'hui, il y a une demande très forte des équipes d'être associées et formées à tous les steps du métier d'avocat. Et cette activité de formation, elle est fondamentale dans notre activité. Nous sommes aujourd'hui 13 associés, tous co-gérants de la structure. Et nous avons fait le choix d'une gouvernance qui s'organise autour d'un COMEX de 4 associés qui, eux, vont instruire les projets de développement au long cours. Nous nous sommes répartis l'instruction et le suivi des sujets par thème. L'un des associés va gérer le thème, par exemple, finance, développement business. Moi, par exemple, je gère la gestion des locaux et je gère l'animation événementielle interne du cabinet.
Conversation.
Au quotidien, vous gérez des avocats collaborateurs, donc de fait indépendants, mais également des fonctions support avec des contrats de travail plus classiques. Comment parvenez-vous à impulser une culture commune malgré cette dichotomie?
Nous avons un véritable enjeu de rassemblement des différents métiers autour de valeurs communes et autour d'un projet commun. Parce que sur le long terme, cela ne fonctionne que si chacun connaît sa place, connaît l'importance de sa place et connaît l'importance de la place du voisin. Au quotidien, pour favoriser les échanges spontanés, nous avons fait le choix d'espaces de travail ouverts qui mêlent avocats et fonctions support. Le choix de ces locaux a aussi été guidé par l'importance de ces espaces de convivialité. On a vraiment pensé les lieux de travail et les lieux de pause comme des espaces qui favorisent l'échange inter-équipe et inter-métier.
Conversation.
Le marché du recrutement est tendu. Comment faites-vous pour recruter des avocats collaborateurs et qu'est-ce qu'un cabinet doit offrir en plus de ses confrères pour attirer les talents?
Le recrutement, comme vous le dites, est un enjeu très fort pour nous sur un marché, si je puis m'exprimer ainsi, qui est extrêmement concurrentiel. Alors, au-delà de la course à la rémunération la plus élevée, chez Littler France, nous partageons tous les 13 la conviction que l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est essentielle. Cette exigence d'équilibre, elle s'applique également à nos collaborateurs. Nous partageons également la même méthodologie avec mes 12 autres associés, qui consiste à responsabiliser très vite les jeunes collaborateurs, en équipe ou en lien direct avec leurs associés, sur des dossiers à fort enjeu, et en lien direct avec les clients. C'est extrêmement important.
Spécialiste du droit social, du droit du travail, votre regard est précieux quant à l'évolution des attentes des dirigeants d'une part et des salariés de l'autre. Quelles sont les grandes tendances que vous observez aujourd'hui?
Clairement, depuis la crise du Covid, nous observons chez tous nos clients plus qu'une recherche d'équilibre vie perso, vie professionnelle, mais vraiment une quête de sens du travail. Aujourd'hui, on a des salariés qui veulent vraiment comprendre l'impact de leur mission, de leur fonction sur un système organisé. Et c'est seulement à la lumière de cette compréhension qu'ils vont mettre le curseur de leur implication. Nous, en tant que conseil d'employeur, nous avons aussi ce rôle de participer à les aider à anticiper ces tendances, ces mouvements, la réponse à apporter. Alors, pour ce faire, on intervient énormément dans des groupes de réflexion RH, mais aussi, de manière opérationnelle, nous intervenons dans des commissions parlementaires qui travaillent à adapter des textes législatifs qui sont parfois complètement dépassés par la pratique et la réalité du monde du travail. Il faut comprendre que pour avoir un texte, souvent, on a une série de décisions qui va pousser à casser un petit peu une pratique législative. Et pour avoir cette série de décisions, il faut que la Cour de cassation, qui est la plus haute instance française, se prononce. Il faut 3 à 5 ans. Vous comprenez bien que quand on arrive 3 à 5 ans, c'est déjà trop tard. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on réfléchit sur les modalités de preuve. Il y a énormément de jurisprudence en ce moment sur les preuves qui sont issues de SMS, de WhatsApp, des réseaux sociaux. J'ai envie de vous dire, c'est fini. Il n'est même plus question aujourd'hui de légiférer sur ces questions-là. Au quotidien, je ne suis plus interrogée sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on est passé à d'autres modes de communication et d'autres modes d'interrogation dans le monde du travail.
On a évoqué l'évolution des conditions de travail, la recherche de sens, le bouleversement lié à l'intelligence artificielle, les modes de travail, télétravail, bien-être, sens, semaine des 4 jours. Toutefois, y a-t-il une rupture ou plutôt un changement d'époque dans la nature même du contentieux lié au droit social?
Alors, pour moi, l'évolution du contentieux lié au droit social n'est pas relative au télétravail, au bien-être ou à la semaine de 4 jours. On n'en est pas encore là. J'expliquais tout à l'heure que c'est vrai que les délais d'audiencement font qu'à date, il n'y a pas aujourd'hui de décision jurisprudentielle notable sur ces sujets-là. Et à titre plus personnel, je n'ai pas de contentieux ou de sujets prégnants sur ces sujets-là. En revanche, ce qu'on peut constater en termes de contentieux social aujourd'hui, vous avez notamment, j'irai, deux ou trois grandes évolutions, ou grandes tendances plutôt. Ça va être tout ce qui est des dossiers qui vont être des problématiques difficiles à négocier parce que le dialogue est rompu. Donc je parle notamment du harcèlement ou de la discrimination. Et puis, sur ces derniers mois, on a quand même un grand retour des contentieux collectifs plus durs, accompagnés de grèves. L'explication que je peux trouver, c'est effectivement une tension prégnante aujourd'hui sur les salaires, sur les rémunérations, et avec un petit peu un regain, justement, de contentieux collectifs. Ça faisait, c'est vrai, moi, des années que je n'avais pas eu de mouvement de grève parmi soit les sociétés que j'accompagne, soit celles de mes associés. On n'en est pas encore au contentieux sur le télétravail, la quête de sens ou la semaine des 4 jours.
Conversation.
L'entretien est enregistré autour du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire, au sein d'Hitler France, s'il y a encore des tabous sur l'égalité du traitement femmes-hommes? Et plus généralement, éventuellement, si vous avez un œil dans vos dossiers, quel est l'état aujourd'hui que vous observez sur ce type de différenciation? Est-ce qu'elle persiste ou non aujourd'hui en 2024?
Alors, en ce qui concerne le cabinet d'Hitler France, ce qui est important, c'est de se dire qu'en termes de rémunération, puisque c'est de ça dont on parle, en termes de rémunération, nous avons des grilles de rémunération pour les collaborateurs. Donc c'est transparent, clair, complètement déconnecté de toute notion de sexe. S'agissant des associés, entre nous, nous avons aussi nos règles qui sont absolument déconnectées de ce sujet-là. S'agissant des entreprises que je peux accompagner, effectivement, on a aujourd'hui énormément de demandes contentieuses sur le terrain de la discrimination, souvent liée au sexe. Alors, très largement, lorsque j'ai à traiter de ce type de sujet, on peut vite faire le constat qu'il n'y a pas de problématique. Mais il serait quand même faux de dire que ça n'existe pas. Et effectivement, ce qu'on peut voir, c'est des choses très naïves, où on va avoir des retards de rémunération, pas poste pour poste et évolution pour évolution. Évidemment, on n'est pas dans des situations où vous avez un homme et une femme qui ont le même poste, la même ancienneté, le même parcours, qui ne perçoivent pas la même rémunération. Le sujet est plus pernicieux que ça, et le sujet est plus souvent lié soit à une maternité, qui va avoir retardé de manière significative l'évolution dans l'entreprise, soit à une durée du travail. Puisque, de manière un peu pernicieuse, vous pouvez avoir dans le salariat des temps partiels. On fait le constat, hein, c'est une réalité. Les personnes, les travailleurs à temps partiel sont majoritairement des femmes. Et vous pouvez avoir dans des entreprises, et j'ai eu plusieurs contentieux sur ce sujet-là, des systèmes de rémunération complémentaires qui peuvent par exemple être liés à des durées de travail. Et effectivement, quand on vous dit que votre système de rémunération complémentaire n'est ouvert seulement aux personnes qui sont à temps plein par exemple, de manière indirecte, il y a effectivement une discrimination liée au sexe, puisque dans ma boîte, j'ai 90% de temps partiel qui sont des femmes. Et ce type de sujet un petit peu pernicieux, finalement, se cache dans des détails d'accords collectifs qui vont pouvoir être négociés avec les organisations syndicales, et qui, au bout du bout, sur le papier, sont censées être transparentes et neutres, et dans les impacts effectifs constitue une discrimination qui peut être liée au sexe. Voilà, aujourd'hui, moi, je ne constate pas de discrimination évidente dans le monde du travail auprès des entreprises que je conseille. Pour autant, effectivement, ça peut, la discrimination liée au sexe peut intervenir de manière, par ricochet, de manière indirecte.
Merci, Maître Coralie Jamois, associée du cabinet Littler France.
C'était Conversation, la voix des dirigeants, un podcast de Jean Gabory et Guillaume Rivalan.